Bonjour à tous. C'est une joie de vous revoir. On va commencer par prier. Seigneur, je te rends grâce de ces moments que tu nous accordes devant ta face. Merci parce que tu es ce roi de gloire. Tu es ce roi d'amour aussi. Et Seigneur, il n'y a que toi qui peux toucher nos cœurs, nous faire aussi progresser dans les voies que tu as préparées pour nous. Et nous te remercions pour l'œuvre que tu accomplis dans nos cœurs. Et nous te demandons de la poursuivre encore. Et c'est vrai que tu veux faire cette œuvre en nous aussi, mais tu veux aussi sauver les perdus. Et tu ne veux pas qu'on soit centré seulement sur nous-mêmes, mais tu veux aussi nous faire aller pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci de nous aider dans ces choses, de nous conduire et que tu puisses glorifier ton nom dans ce que nous faisons. Amen. Alors, je vous partage la parabole. Alors, j'ai déjà partagé quelques paraboles avec vous. Je poursuis les paraboles de Matthieu chapitre 13. Et donc, on avait. Alors, ça fait un moment maintenant, mais on avait. Je vous avais partagé la parabole du grain de sénévé la fois dernière, il y a 2 ans peut-être. Et donc on est maintenant à la parabole du levain dans Matthieu 13, verset 33. Et donc la parole dit, alors c'est Jésus qui dit, leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Alors la première question que je me suis posée, c'est le levain, est-ce une image du bien ou du mal ? Le levain est utilisé à plusieurs endroits dans la parole, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on voit que la plupart des offrandes étaient sans levain. Dans le Nouveau Testament, on voit le Seigneur Jésus qui met en garde ses disciples contre le levain des pharisiens, c'est-à-dire leur enseignement. On voit ça dans Matthieu chapitre 16, verset 11. On a l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Alors face à cet ensemble de versets, qui donne plutôt quand même une connotation assez péjorative au levain, peut-on s'aventurer à interpréter l'image du levain dans cette parabole autrement qu'en lui attribuant un rôle négatif? Alors ça m'a posé un petit peu de problème au début parce que aller en contresens de la signification courante d'un mot dans la parole, c'était pas évident. Pourtant, dans tous les passages qu'on a évoqués, l'image du levain représente la corruption, le péché, les mauvais enseignements, l'orgueil. Et cela voudrait dire qu'ici, la totalité du royaume de Dieu serait au bout du compte corrompu, le levain ayant communiqué à l'ensemble de la pâte cette corruption. Alors, on pourrait dire qu'il y a bien malheureusement dans l'Église de la corruption. Mais le Seigneur ne nous dit pas dans le royaume des cieux, vous trouverez à certains endroits du levain qui mis dans de la farine fera lever toute la pâte. Il dit, le royaume des cieux est semblable à, donc c'est du royaume dans sa globalité dont il parle. Alors non, le Seigneur n'est pas en train de nous dire que le royaume des cieux sera corrompu dans sa globalité, même si on sait que le mal est présent dans l'Église, malheureusement, comme on l'a vu dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Je vais juste monter un petit peu ça. Ah, c'est mieux. Voilà, on sait que malheureusement, Le mal est présent dans l'Église, hein, on l'a vu dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Mais non, le royaume de Dieu ne sera pas corrompu complètement à la fin. Le royaume de Dieu sera glorieux, car Christ prépare son Église pour la faire paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. On lit ça dans Éphésiens 5, versets 25 à 28. Et non, l'actrice principale du royaume n'est pas Jézabel, mais la glorieuse Trinité. Alors, je parle de Jézabel parce que j'avais vu un enseignement, enfin, j'avais lu une méditation de ce passage qui parlait justement que le vin, c'était la corruption qui se propageait dans le royaume de Dieu, et donc et c'était Jézabel à travers ses mauvais enseignements qui permettait cette diffusion. Mais non, l'acteur principal du royaume de Dieu, c'est le Seigneur. Et voilà, donc je ne pense pas que c'est le sens de la parabole. Donc je suis convaincu que le vin représente quelque chose de bon dans cette parabole. Et alors je vous donne deux autres raisons pourquoi je pense comme ça. C'est premièrement, même si la plupart des offrandes étaient sans levain, il y avait aussi des offrandes avec du pain levé. On voit ça dans Lévitique. Je vais prendre ce passage dans Lévitique 7, versets 11 à 13. Lévitique 7, verset 11. « Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain, arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. » Donc on voit que ce n'est pas que le levain était une abomination devant l'Éternel et qu'il ne devait pas y en avoir. Il n'y avait pas d'interdit pour le peuple d'utiliser du levain. Et même dans certains cas, voilà, ça faisait partie de l'offrande devant l'Éternel. Donc je n'ai pas analysé en détail ce que signifie cette image dans les offrandes, mais on voit que voilà, ce n'était pas à bannir devant le Seigneur et ce n'était pas un interdit pour le peuple. Et il y a une autre observation qui me rassure aussi quant à cette interprétation, on va dire, positive du levain dans les paraboles, c'est que le Seigneur est toujours logique. Il utilise des cas concrets de la vie pour aider les personnes à comprendre, et il prend toujours... c'est toujours facile pour les auditeurs de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal dans la parabole, car les éléments qui correspondent au bien sont toujours ceux qui sont attendus, qui sont vus comme normal par tous, alors que ceux qui correspondent au mal sont toujours ceux, là aussi, que tout le monde reconnaît comme étant contraires à ce qu'on attend. Je vous donne un exemple. Dans la parabole, par exemple, des terrains, on plante, le semeur plante les graines. Ce qu'on attend, bien sûr, c'est que la graine, elle pousse. C'est ce qui est attendu. Et tout le monde est d'accord pour dire que les pierres, les épines vont s'opposer à cette action. Et aussi que les oiseaux... que l'agriculteur aimerait bien empêcher aussi les oiseaux de manger ses graines. Donc là, c'est clair, les oiseaux, les pierres, les épines représentent bien le mal et les mauvaises influences. Dans la parabole, par exemple, du bon grain et de l'ivraie, on voit aussi que ben, l'agriculteur, je pense qu'il se passerait bien aussi d'avoir de l'ivraie dans son champ. Là aussi, on voit l'ivraie qui représente l'œuvre du malin. Donc pour le levain... l'action attendue quand on met du levain dans de la farine, c'est que la pâte lève. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on souhaite. Donc je ne peux pas penser ici que le levain représenterait quelque chose de mauvais. Donc cela étant dit, voilà, donc ce levain, pour moi, c'est une bonne chose. Alors le vin, qu'est-ce que c'est ? Le levain, c'est un mélange de farine entière et d'eau qu'on a laissé fermenter dans de bonnes conditions. Alors les levures et les bactéries qui sont naturellement présentes dans la farine vont transformer les sucres et produire différents types de molécules. Le levain n'est plus de la farine. Il possède une autre nature. Le levain est vivant quand la farine est sèche et sans vie. Alors je dirais de même les croyants ayant été arrosés de l'eau du Saint-Esprit, ont reçu une nouvelle nature. On peut lire dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc les croyants ont reçu une nouvelle nature et ils possèdent la vie en eux-mêmes. On le lit, hein, c'est tous des passages que vous connaissez bien, mais je relis 1 Jean 5, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » En plus de cela, ayant reçu cette vie, on est adopté dans la famille de Dieu et on forme désormais un seul corps indivisible. Dans le levain, vous ne pouvez plus distinguer un grain de farine d'un autre. On voit dans Romains 12, verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Alors le levain, je l'interprète comme étant l'Église, le rassemblement des croyants régénérés et transformés par l'action du Saint-Esprit et qui forment un seul corps. Alors personnellement, j'aime bien essayer d'identifier les différents éléments d'une parabole, car on peut toujours en tirer des enseignements assez riches. Et alors là, je me posais la question, qu'est-ce que représentent les levures et les bactéries dans le levain ? Car ce sont elles qui transforment la farine. Mais je me suis dit ensuite qu'à l'époque de Jésus, ils ne connaissaient pas le monde microscopique, puisque les bactéries n'ont été observées qu'au XVIIe siècle. Il semblerait malgré tout qu'à l'époque romaine, ils avaient déjà cette notion un petit peu d'organisme microscopique qui serait à l'origine des maladies. Mais à l'époque, en tout cas, leur connaissance était quasiment inexistante à ce sujet. Donc la transformation de la farine en levain devait être quand même quelque chose d'assez mystérieux pour eux. Ils pouvaient l'observer de façon macroscopique, mais ils ne pouvaient pas l'expliquer. Et de la même façon, Dieu nous donne une nouvelle nature, mais la transformation qu'il opère en nous est assez mystérieuse. On peut l'observer, mais comprendre vraiment comment elle se produit en nous, c'est au-dessus de nos pensées. Bien souvent, quand je réalise le mal qui est en moi, et je réalise qu'il doit être changé, je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Mais par la grâce du Seigneur, je peux me rendre compte quelques mois, quelques années plus tard, que je ne réagis plus de la même façon. Le Seigneur a agi en moi, mais je ne suis pas capable d'expliquer comment. Il a agi en moi par l'action du Saint-Esprit et en utilisant aussi les circonstances extérieures. Il a agi en moi pour me transformer de gloire en gloire. On peut relire dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Seigneur sait nous placer dans les bonnes conditions pour que la transformation s'opère, comme on va le voir maintenant. Alors le levain, comment est-il préparé ? Alors comme on l'a dit, la préparation du levain commence par le mélange d'eau et de farine. Et on sait que l'œuvre de Dieu dans une personne et dans son Église commence toujours par l'action du Saint-Esprit. L'homme a besoin de comprendre son état de pécheur avant de comprendre qu'il a besoin d'un sauveur. Et donc cette œuvre, c'est l'Esprit qui l'accomplit. C'est Jean 16 qui nous le dit, hein, versets 7 à 8. Et c'est Jésus qui dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc l'eau de l'Esprit, est indispensable. Donc on mélange l'eau et la farine, mais pour que le levain prenne, il faut le placer dans les bonnes conditions de température, d'hygrométrie, il faut le soigner. Si vous ne couvrez pas le levain, il va sécher. S'il fait trop froid, son développement va être grandement ralenti. Si vous ne le nourrissez pas de temps en temps en lui incorporant un peu de farine fraîche, il va mourir. Alors on voit dans cette parabole l'unique personnage qui est présenté, c'est une femme. Alors bien que Dieu se présente la plupart du temps comme un père, c'est vraiment l'homme et la femme qui manifestent ensemble les différents attributs de Dieu comme selon ce que Dieu a donné à chacun. On voit un autre passage où Dieu se compare à une femme dans Ésaïe 66, versets 13 à 14. « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. » Alors dans la parabole, le Seigneur met en scène une femme pour montrer le soin qu'il apporte aux croyants, pour les faire grandir, pour les faire se développer. Christ prend soin de son Église. On peut relire aussi un passage très connu qu'on lit souvent au moment des mariages, dans Éphésiens 5, versets 25 à 30, qui nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Alors un des soins, c'est de nourrir le levain avec un peu de farine fraîche. Et gloire à Dieu, le Seigneur ajoute de nouvelles âmes à son Église pour la renouveler, pour qu'elle continue à vivre. Vous savez que si le levain n'est pas nourri, il finit par fermenter à l'excès et en fait à n'être plus bon à rien. Et de même, si l'Église est centrée sur elle-même et finit par avoir perdu la vision des perdus, elle finira par ne plus manifester la bonne odeur de Christ et finalement par mourir. Alors, mais même avec tous ces soins, le levain a besoin d'un peu de temps pour se développer. Ce temps de préparation est nécessaire. Il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste, un temps de formation, de développement, et un temps pour agir. Ça me fait penser aux disciples qui ont vécu ce temps de formation avec le Seigneur pendant son séjour sur la terre. On voit que même après la résurrection, le Seigneur a encore passé du temps avec eux pour les enseigner sur le royaume de Dieu. On lit ça dans Actes 1, verset 3. Il dit « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Il y a eu ensuite la Pentecôte et ils ont été envoyés jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça, on va en reparler un petit peu après. Pour le levain, le temps de préparation est terminé, il est temps de l'utiliser. Alors à quoi sert le levain ? Le levain, la femme a préparé donc du levain, c'est pas juste pour faire joli. Elle a apporté tout ce soin au levain. C'est pas juste parce qu'elle aime bien préparer du levain, il y a une utilité. C'est pour faire du pain. Et de même, le Seigneur s'est préparé un petit peu de levain avec les apôtres, comme on vient d'en parler, et il a créé ici une église locale. Il en a pris soin, il a ajouté régulièrement des âmes à cette église pour la soutenir, la développer. Mais les apôtres et l'église n'ont pas été formés et préparés juste pour vivre dans leur petit confort, on va dire pour vivoter. Ils ont été préparés pour communiquer la vie au monde. Alors la femme de la parabole met donc le levain dans trois parts de farine. Le Seigneur a envoyé ses apôtres et met son église au contact des perdus. Ces perdus sont secs, comme la farine. Ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. Le Seigneur dit à propos de ses disciples, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » L'Église doit être au contact des perdus. Elle doit être séparée du monde par un comportement différent, mais être dans le monde auprès des âmes assoiffées. Et que se passe-t-il quand le levain de Dieu est mis au contact avec les âmes assoiffées, la farine ? Le levain communique la vie au reste de la farine. Le rôle de l'Église, c'est de communiquer la vie aux hommes et aux femmes de notre génération. Et alors la farine est progressivement transformée, elle aussi, en pâte à pain. Elle reçoit également cette transformation de nature. Et la parole nous dit « jusqu'à ce que toute la pâte soit levée ». La totalité de la farine est progressivement transformée pour ne former qu'un seul corps. Alors on peut se poser la question, que représentent ces trois parts de farine ? Je voudrais d'abord dire qu'il y a une différence de proportion entre la farine qui est ajoutée en petite quantité au levain pour le maintenir en vie et la farine qui est incorporée sous forme des trois parts. Les trois parts de farine représentent beaucoup de farine. À un moment donné, quand l'Église est prête, c'est en grand nombre que les âmes sont amenées au salut. Prions pour cela. Alors les trois parts, elles peuvent représenter différents aspects du salut. On peut dire, du temps de Jésus, il y avait trois catégories de personnes, on va dire, des Juifs qui avaient la révélation de Dieu, des Samaritains qui avaient une certaine notion de Dieu, mais sans vraiment le connaître. On voit ça dans l'échange entre Jésus et la Samaritaine. Et les païens qui n'avaient aucune connaissance du Dieu vivant. Alors si on le prend sous cet angle, la parabole signifie que Dieu veut inclure dans l'Église des personnes de toutes les nations, aussi bien juifs que grecs. Hein, c'est ce qui est, je pense, le premier sens. Je rappelle encore ici 1 Timothée 2, versets 3 et 4. « Cela est bon, est agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » On peut interpréter aussi ces trois parts de différentes façons, comme étant les trois générations, les enfants, les adultes, les personnes âgées. Le diable cherche à diviser, détruire les familles. L'Église rassemble et unit des personnes de tous âges. Le chiffre 3 symbolise aussi l'unité, la perfection, la plénitude. L'Église est un lieu où toute la personne, le corps, l'âme et l'esprit et sont restaurés. On peut dire que le péché avait atteint le corps, l'âme et l'esprit, ils étaient tous les trois secs, sans vie. Ils étaient comme séparés l'un de l'autre, sans cohésion. Mais le Saint-Esprit est venu vivifier et rendre une pleine cohésion. On lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Alors on a parlé de ces trois parts de farine qui sont incorporées au levain, mais un détail important n'est pas mentionné dans la parabole, c'est que l'ajout des trois parts de farine au levain ne peut pas se faire sans ajouter de l'eau supplémentaire. Si vous ajoutez de la farine au levain sans ajouter d'eau, vous n'obtiendrez au bout du compte qu'une masse desséchée et déshydratée. Et cette eau est versée à la fois sur le levain et sur la farine. L'incorporation de nouvelles âmes à l'Église se fait à travers l'Église, mais grâce à l'action du Saint-Esprit dans les croyants et dans les perdus. Pour illustrer cela, je reviens à l'exemple des apôtres. Ils ont été formés par le Seigneur et je trouve intéressant de constater que du temps du Seigneur Jésus lui-même, la Bible ne mentionne pas beaucoup de conversions. Le Seigneur Jésus lui-même était présent, il réalisait des miracles. Pourtant, quand on lit les évangiles, une grande partie du peuple semble rester incrédule. Le Seigneur parle même en parabole Il nous est dit de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ça, c'est dans Matthieu 13, verset 15. Ce n'était pas encore le temps d'incorporer la farine. Il fallait d'abord préparer le levain. Mais avant de partir, le Seigneur dit aux disciples, on lit ça dans Actes 1, versets 4 à 8, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors les disciples, le levain, on va dire, étaient prêts. Il fallait maintenant attendre l'eau du Saint-Esprit pour incorporer la farine en grande quantité. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. L'Esprit est descendu avec puissance sur les apôtres, mais aussi sur les perdus. Sinon, comment expliquer s'il n'y avait pas l'action du Saint-Esprit dans le cœur des contemporains des apôtres? Comment peut-on expliquer que tout d'un coup, il y a énormément de personnes qui se convertissent, alors que du temps du Seigneur Jésus, les cœurs semblaient rester fermés? On lit dans Actes 2, Pierre s'adresse à la foule, et on lit au verset 41, « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » On trouve trois parts de farine, on va dire. Plus loin, au chapitre 4, verset 4, on lit « Que le nombre des hommes qui crurent s'éleva à 5000 hommes. » Alors quand le temps choisi par Dieu est venu, il déverse son esprit pour accorder son salut à des multitudes. Alors que faire? L'interprétation de cette parabole est-elle transférable aussi à l'église locale? Oui, je pense. Le Seigneur se prépare du levain dans différentes villes, dans différents villages, des petites églises locales. Mais son plan est bien de préparer du pain et d'amener au salut un grand nombre de personnes. Alors es-tu de ceux qui ont travaillé toutes ces années pour construire l'Église sans toujours avoir beaucoup de résultats? Ton travail n'a pas été vain. À travers ton travail et tes soins, c'est le Seigneur qui s'est préparé du levain et en a pris soin. Et ce levain, il va l'utiliser. J'irai persévère dans cette œuvre. Ça me fait penser à une phrase que Guy, le pasteur à Rumingem, avait partagée une fois lors d'une réunion de prière. Il disait « La souffrance et le succès vont de pair. Si tu as du succès sans la souffrance, c'est que d'autres ont souffert avant toi. Si tu as la souffrance sans le succès, c'est que d'autres auront du succès après toi. » Alors, es-tu de ceux qui ont commencé à évangéliser, peut-être? Peut-être tu te dis, après ce partage, il vaut mieux attendre que Dieu déverse son esprit avec abondance, et alors la farine sera beaucoup plus facile à incorporer. Alors, je dirais non, continue ce que tu as entrepris. Tout cela fait aussi partie de la formation. Comme le Seigneur a envoyé ses disciples prêcher dans les villages quand il était avec eux, de même, il t'envoie dès à présent. Il nous faut un peu d'expérience pour être prêt pour le jour où une marée humaine va déferler dans l'Église. Cette expérience s'acquiert sur le terrain. De plus, qui sait si à travers ton travail, le Seigneur ne permettra pas aussi d'apporter quelques âmes pour renouveler l'Église? On a bien vu tout à l'heure que le levain devait être nourri de temps en temps avec un peu de farine fraîche. Et qui sait encore si ton obéissance ne sera pas l'élément déclencheur qui conduira le Seigneur à ouvrir les écluses des cieux. Alors le point essentiel, je pense, c'est de prier le Père de déverser l'Esprit Saint sur nous et sur nos concitoyens. Pour nos concitoyens, parce qu'ils ont besoin de réaliser leur état de pécheur, et seule l'action de l'Esprit de Dieu en eux peut le leur révéler. Pour nous, bien sûr, nous désirons voir cette action puissante de l'Esprit dans l'Église, mais je crois sincèrement que l'Esprit sera donné uniquement si nous sommes résolument tournés vers les perdus. Dans la parabole, l'eau doit être ajoutée uniquement parce qu'il faut incorporer la farine. S'il s'agit seulement de maintenir le levain en vie, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'eau. Alors ayons à cœur les perdus, et l'Esprit sera donné avec abondance. À travers cette parabole, le Seigneur nous avertit, nous avons un rôle à jouer. Alors la dernière étape, bien sûr, quand le pain est prêt, c'est la cuisson. Une fois que la vie a été communiquée par l'Église à travers l'Esprit et a permis d'incorporer beaucoup de nouvelles âmes, l'ensemble de la pâte est enfin levé. Toutes ces âmes, de mortes qu'elles étaient, sont maintenant une nouvelle nature et forment un corps uni. Le Seigneur dit lui-même dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Un autre passage nous dit que nous sommes le corps de Christ. Il nous faut donc passer de la pâte au pain, et donc passer par le four. Alors l'Église, une fois unie, peut passer par l'épreuve pour être sanctifiée et devenir un sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous conduise dans ces choses-là. Amen.
Amen.